Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Interview auprès de Émilie Moussillon. Émilie, vice-présidente aussi de Ardèche Drôm de la Libre Pensée. Bonjour.
Bonjour, bonjour Erdiwa, bonjour les auditeurs.
Et puis Jean Debrenne, secrétaire aussi de Ardèche Drôm de la Libre Pensée.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes là pour parler avant tout aussi d'une édition publié assez régulièrement, vous l'indiquerez, qui s'intitule Le Mécréant. Le Mécréant, donc, c'est en quelque sorte une vitrine qui agit sur quel territoire, notamment ?
Son nom complet, c'est Le Mécréant Ardéchaud Drômois, qui donc, comme son nom l'indique, couvre l'Ardèche et la Drôme. C'est d'ailleurs une spécificité parmi les fédérations de la libre pensée, parce que la plupart sont départementales. Mais bon, l'histoire fait que il y a un lien entre l'Ardèche et la Drôme pour d'autres organisations d'ailleurs. Hein. C'est pas original ni spécifique à la Libre Pensée. On peut dire un mot de ce qu'est la Libre Pensée, puisque c'est une très vieille organisation hein, qui est née en 1848, qui a eu, on pourrait dire, ses heures de gloire, enfin comme d'autres, qui a eu des hauts et des bas. Qui a compté en son sein des gens tout à fait célèbres comme Victor Hugo, Louise Michel, Émile Zola, Jean Jaurès et d'autres plus récemment, puisque par exemple le président de la Libre Pensée a été Marc Blondel, et ce jusqu'à son décès. Il est vrai qu'il y a eu des périodes, en particulier 1920-1930 par là, où la Libre Pensée était représentée, y compris dans des villages, de façon importante. J'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone un camarade du Teil, qui a 90 ans et qui disait « j'ai honte d'être tout seul » comme adhérent au Teil, parce qu'il a connu des périodes plus fastes. Ceci dit, malgré le fait que dans les années, disons 80-90, la libre pensée a un peu a été même en danger d'une certaine manière, là, depuis cette époque-là, elle est plutôt en expansion et on a réussi à reconstruire quelque chose de tout à fait solide. Il y a également une association internationale de la libre pensée et c'est une association qui est bien vivante.
Quelques-unes des fédérations départementales ont un bulletin local, c'est le cas du Mécréant, c'est un bulletin. Le mot vitrine n'est pas tout à fait adapté, hein. C'est plutôt une tribune, un bulletin où on va détailler un peu ce qu'on y publie, mais des articles d'intérêt plus local et puis des articles nationaux et puis internationaux aussi, des choses de culture générale, des choses politiques, on va décrire ça un petit peu.
Le Mécréant, quel sens vous donnez à ce nom d'ailleurs ?
La question s'est posée parce que, au départ, ce bulletin qui est trimestriel s'appelait La Libre Pensée Ardéchoise, puisque à une époque, seule l'Ardèche avait une fédération de libre pensée. Et on a, après débat, décidé de nommer ce bulletin Le Mécréant Ardéchaud Drômois. On avait envisagé aussi Le Réfractaire, mais finalement, une majorité s'est dégagée pour l'appeler Le Mécréant. Et ben, je reviendrai à la définition du Littré. Émile Littré était d'ailleurs libre penseur. Et c'est bon, un dictionnaire qui est paru dans les années 1870, par là. Et la définition qui était proposée, c'était « qui croit mal » ou bien « incrédule qui ne veut pas croire ». On trouve aussi l'appellation « d'esprit fort ». Donc, ce qui induit quand même la notion de résistance, quelque part. Et il est dit aussi, toujours dans le Littré, que le mot mécréant a pris quelque chose de familier et d'ironique. Et c'est effectivement une acception qu'on retrouve maintenant. Mais j'aurais jamais cru qu'elle était présente dès la fin du 19e. On trouve aussi une autre définition, qui est celle de mécroire. Et c'est le refus de croire. On avait d'ailleurs, au moment où on a changé de nom, l'éditorial se commençait comme ça, sous son petit nom charmant et majoritairement adopté. Voici donc notre bulletin de juin. La mécréance est définie dans le Littré comme le refus de croire, incrédulité, et assortie d'une citation de Montesquieu, ici enclin à la superstition, ailleurs à la mécréance, ici à la liberté, là à la servitude.
Le mécréant, donc, ce sont deux départements. Combien il y en a en France de ce type ?
Une vingtaine peut-être, de périodicité peut-être différente et de taille différente. Notre mécréant à nous fait régulièrement 28 pages. En gros, il y en a, la plupart sont moins conséquents.
Chaque fédération a sa propre formule. Il y en a qui ont soit pas envie ou pas assez d'adhérents pour fournir un bulletin régulièrement ou fournir un bulletin tout court. Chacune fédération qui est évidemment reliée à la fédération nationale, mais qui est aussi autonome dans son choix de nom, par exemple, et puis dans sa ligne éditoriale, décide voilà du nom, du contenu, du nombre de pages, et les adhérents écrivent. Et puis des fois, ça arrive. Quand même qu'il y ait des petits prêts d'articles. J'ai déjà vu, moi, on m'a demandé un article que j'avais écrit pour le mécréant, pour le nôtre, et puis on m'a demandé si on pouvait le mettre en Gironde, je crois. On fait des petits échanges de contenus qui nous ont particulièrement plu, et on se dit que voilà, les gens qui sont abonnés au mécréant seraient intéressés de lire ce contenu. C'est très varié. Nos abonnés sont principalement sur l'Ardèche et la Drôme, mais pas que. Il y a des abonnés qui sont dans le Grand Est, ou dans le Grand Nord, ou dans l'Ouest. En Bretagne, ça arrive comme ça, des gens qui ont lu un article et puis que ça a intéressé.
Il y a également un abonné au Japon, bon, qui reçoit la version numérique.
Tout à l'heure, vous citiez Victor Hugo, qui semble être le premier à utiliser ce terme de la libre pensée en 1850. Donc, un monument de la littérature française, de la langue. Qu'en est-il aujourd'hui de cette caution possible d'auteur ou d'écrivain ou d'aujourd'hui par rapport à la libre pensée ?
Donc oui, alors là, on n'est plus vraiment en Ardèche-Drôme. Hein. Tu veux dire des gens au national qui seraient des adhérents de la libre-pensée ? Je ne sais pas si en dehors du fait d'adhérer et de militer à la libre-pensée, on a évidemment des gens qui peuvent être nos partenaires de temps en temps. Par exemple, la libre-pensée, elle a une émission sur France Culture un dimanche par mois. C'est l'occasion d'inviter des gens dont la voix est portée par d'autres médias et dont la voix est forte. Donc, à la fois, on relaie leur parole et puis ils relaient la nôtre. Hein, c'est un peu... parce que notre parole, elle n'est pas unique, quoi. On peut citer que récemment, il y a eu, à la sortie du livre d'Ari Halimi, qui est un avocat et qui est aussi à la Ligue des droits de l'homme, qui est venu présenter son dernier livre sur l'État hors la loi et les violences policières. C'est à certaines occasions comme ça, certains se font nos porte-voix et on se fait les leurs quand il y a une convergence un peu dans nos propos. Historiquement, il y a Annie Lacroix-Rie qui est une historienne, donc elle va porter notre voix et puis on va porter ses propos aussi à ces occasions-là. L'historien Jean-Marc Schiappa qui est à la CAN, c'est-à-dire notre commission administrative nationale, enfin ou qui est associée à ça en tout cas. Mais voilà, donc on a selon le thème, selon le sujet, selon les revendications, on se croise comme ça avec des militants d'autres organisations.
D'ailleurs, on peut ajouter ça, il y a un institut de recherche et d'études de la libre-pensée, dont d'ailleurs Émilie et Océa, qui mène un travail de recherche, donc comme son nom l'indique, et qui du coup est en contact avec des historiens, des universitaires, etc. Il y a toute une mouvance autour de la libre-pensée, sans forcément que les gens soient adhérents.
Quelles sont les bases qui ont permis de constituer ce mouvement de la libre-pensée en France ?
De toute façon, la libre-pensée est née du mouvement ouvrier, hein. C'est pas du tout un mystère. Son combat principal est autour de la laïcité et de l'anticléricalisme. Elle est également antimilitariste. Historiquement, il y avait tout un tas d'obédience politique qui était dans la libre-pensée. Ou d'ailleurs des gens qui n'étaient encartés nulle part. C'est pas du tout. Si on regarde notre fédération, qui compte, disons, en moyenne une soixantaine d'adhérents, il y a une foule de gens et une foule majoritaire de gens qui sont encartés nulle part. Mais c'est vrai qu'au début de la libre pensée, il y avait des radicaux socialistes, des communistes, des anarchistes. Bref, toutes les tendances du mouvement ouvrier étaient représentées. Et c'est bien ce qui est son intérêt. Et on le voit dans un tas de combats actuels où on joue un rôle de lien, ou en tout cas on agit pour l'unité sur un tas de combats, qu'il s'agisse du combat pour les libertés démocratiques ou en soutien au peuple palestinien, ou enfin bref, il y a tout un tas de circonstances où la libre pensée peut porter une parole d'unité qui a vraiment une utilité pour tout le monde.
Cette publication du Mécréant, comment se constitue-t-elle à chaque numéro? Est-ce qu'il y a un comité de rédaction qui chapeaute la direction à prendre, ou alors il y a une totale autonomie de chaque auteur pour publier?
En général, on est d'accord entre nous, donc il n'y a pas eu lieu de censurer ou de rectifier telle ou telle parole. Il est de toute façon précisé que chacun porte la responsabilité de l'article qu'il a écrit. Donc il y a bien un comité de rédaction, mais qui se confond avec le bureau de la fédération. Au moment de la réalisation du Mécréant, des articles circulent. Ça se fait de façon un peu informelle, hein, faut bien reconnaître. C'est pas comme je vois les choses comme elles se passent au niveau national, puisqu'il y a aussi un mensuel qui s'appelle La Raison, qui est le mensuel de la libre pensée, où là les articles sont donnés à tout le comité de rédaction en amont, discutés le cas échéant, et on n'a pas vraiment ce fonctionnement-là. Comme c'est moi qui fais la mise en page, il y a des choses que je fais directement et personne ne s'est opposé à ce que je pouvais faire jusque-là.
Techniquement, on pourrait s'y opposer parce qu'on a quand même un fonctionnement démocratique. Si on n'est pas obligé de se réunir physiquement, vous imaginez bien que l'Ardèche, la Drôme, ça s'étend, c'est grand. On ne va pas sans arrêt être en train de se retrouver. Donc on échange par mail. Jean a des articles qu'il garde sous le coude en attendant d'avoir la place pour les publier. Donc généralement, un petit peu avant la publication, il nous lance une maquette en disant « Voilà, il reste quelques trous à combler. J'ai mis ça. » Nous, on regarde et puis, effectivement, je crois que c'est jamais arrivé qu'on dise « Ah non, pas ce truc-là ». Mais en tout cas, voilà, on a quand même notre voix au chapitre pour regarder ce qui se passe dedans, pour faire des propositions, pour dire « Ah, j'ai lu ça, je vais lui demander à tel auteur si on peut le mettre ». Ou voilà, des fois, quand l'un ou l'autre, on publie quelque chose dans une autre publication. Moi, ça m'arrive d'écrire dans l'idée libre, qui est une sorte d'hors-série, quoi. Je sais pas, ça paraît combien de fois. C'est par trimestre. C'est trimestriel. Et comme tous les adhérents Ardèche-Drôme ne sont pas abonnés à l'idée libre, parce que s'abonner à tous a un coût, et ben quand moi, adhérente Ardèche-Drôme, je publie dans l'idée libre, et ben du coup, on le publie dans le Mécréant. Et ça donne une visibilité plus grande pour nos adhérents des articles qu'on peut écrire. Et ça, je pense que tous ceux qui seraient amenés à écrire dans l'idée libre le feraient pour notre bulletin local, quoi. Voilà. Et puis pareil pour La Raison, on peut être amené à mettre évidemment des comptes rendus des rassemblements qu'on fait. On va peut-être décrire ça un petit peu mieux, mais quand on se réunit pour certaines occasions, bah voilà, on met des photos, on met un petit compte rendu, des articles là-dessus. Quand on organise des conférences, on en parle avant, on en parle après, pour faire un petit bilan de comment ça s'est passé. Jean fait une revue de presse. Voilà, il y a toujours les mêmes catégories, et puis dedans se glissent des articles un petit peu plus libres, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a un tas de sujets qui sont régulièrement abordés, ou plutôt irrégulièrement abordés. Bon, il y a des sujets historiques, bien évidemment. On a pu parler de Boris Vian, de Charles Martel, des murs en général, de la ligne Maginot à la Cisjordanie. On a pu parler, je ne sais pas, on a parlé de Pétain, on a parlé de Giordano Bruno, aux origines des obsèques civiles, enfin. On a parlé de Bertrand Russell, qui était un libre penseur et pacifiste, et mathématicien, et philosophe. On a aussi parlé d'art. Il y a eu des comptes rendus, d'expositions diverses.
En fait, chacun est amené à se dire que quand il a vu quelque chose d'intéressant ou qui pouvait intéresser les lecteurs du Mécréant, Parce que là, le but, c'est... Bon, la libre pensée, Jean a très bien résumé qu'en était l'objet, mais du coup, il y a un petit objet derrière d'éducation populaire, si tu veux. Donc, dès l'instant qu'on a vu quelque chose qu'on trouvait intéressant et qu'on veut partager, on peut, voilà, mettre des photos, dire j'ai vu telle expo, voilà pourquoi c'était pertinent, voilà pourquoi c'était intéressant. Pareil, il y a des fois des notes de lecture. Moi, j'ai lu des livres qui ont fait tilt et j'ai dit pourquoi je l'avais lu et pourquoi ça m'avait plu et pourquoi je pouvais éventuellement conseiller aux gens de le lire. Ça peut être aussi un peu plus militant, dire voilà, il y a aussi des choses qu'on lit qui sont des outils pour mieux militer, ça aussi, ça peut être l'occasion. Les choses artistiques, historiques, scientifiques, en fonction des philosophiques, en fonction des intérêts de chacun qui écrit et qui veut bien écrire dans le mécréant.
Oui, par exemple, on a pu parler de Pissarro, de Courbet, de Frank Zappa, de Juliette Roche, qui était une peintre et écrivaine qui est née dans la Drôme. Il y a eu également récemment un article sur une exposition sur la Palestine qui se tenait à Paris. Enfin, voilà. Il y a un camarade hollandais qui est traducteur et qui s'est amusé à faire des textes comme un feuilleton, en se plaçant comme s'il était à l'époque de la Révolution française et en utilisant des illustrations de l'époque qui sont vraiment intéressantes. Il y a eu bien sûr les textes des conférences. Il y a aussi un thème qui est abordé souvent, c'est l'antimilitarisme. Donc on a été amené à parler du SNU, sujet sur lequel d'ailleurs Émilie a fait des conférences et pas seulement par ici.
Vous parlez d'unité, mais au sein de cette unité, il y a quand même des courants, il y a aussi des confrontations d'idées. Vous arrivez aussi...
Oui, chacun arrive à la libre pensée avec sa propre histoire, ses propres convictions, mais il n'y a pas de tendance constituée comme il pourrait y en avoir dans certains partis. Ça, il n'en est pas question pour nous. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas un syndicat non plus, c'est une association... qui à la fois réfléchit et agit.
Donc oui, il n'y aurait pas de sous-groupe, si tu veux. Tu mentionnes des tendances sur le cléricalisme. Ou alors, écoute, ça, c'est peut-être dans l'histoire. Il y a eu des moments... ça a une longue histoire, du coup. Il y a des moments où on a été plus unis que d'autres et des moments plus désunis que d'autres. Clairement, là, la ligne, elle est donnée... effectivement, peut-être que quelqu'un, je ne sais pas moi, de très croyant et de pratiquant ne trouvera pas sa place à la libre pensée, mais après c'est à chacun de voir s'il y trouve sa place. En tout cas, la Fédération nationale s'organise autour d'un congrès tous les 2 ans. Et là, sont discutées les choses en profondeur pour que le processus démocratique fasse quand même son effet autour de nos principes communs. Et ensuite, les départements, les fédérations départementales agissent aussi au niveau local avec leurs propres instances démocratiques et prennent leurs décisions aussi. Effectivement, là, il s'agit d'avoir sa ligne sans non plus complètement être hors ligne nationale. Sinon, ça n'a plus d'intérêt, ça n'est plus une fédération. Enfin, ce serait une autre association. Globalement, on se frite gentiment au niveau national. Je pense que les bases et ce qu'on partage est plus important que le reste, et du coup l'unité demeure en fait, c'est-à-dire que ça s'échauffe, ça se balance des noms d'oiseaux, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le courant ouvrier, donc il y en a qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui ont un langage fleuri et varié, donc ça peut être très poétique même comme échange. Moi, j'apprends beaucoup de choses, mais écoute, c'est une association qui roule et, comme disait Jean, qui réfléchit et qui agit. Donc, il ne s'agit pas seulement de publier un bulletin, c'est important de publier les bulletins. Non, mais voilà, dans le bulletin, on fait état de ce qu'on fait aussi pour de vrai, et ça demeure le plus important dans la libre pensée.
Oui, au niveau des actions visibles, en tout cas, on se réunit, par exemple, tous les 11 novembre. Au départ, c'était dans l'optique de réclamer la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14-18, mais ça va bien au-delà de ça, puisque c'est aussi un combat pacifiste et antimilitariste. Et on n'est pas tout seul. On a été à l'origine d'un rassemblement qui se tient à Joyeuse en Ardèche, et tout récemment d'un deuxième rassemblement à Perrin dans la Drôme. sur cette même idée, avec des interventions d'organisations diverses, qu'elles soient syndicales ou politiques, toujours sur cette axe-là, surtout dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, d'une militarisation galopante où on cherche à imposer des uniformes, à imposer le SNU avec le lever du drapeau au réveil, etc., avec tout un chauvinisme qui est en train de prendre de l'ampleur à l'initiative de ce gouvernement. Chose qu'on combat et qu'on combattra quoi qu'il arrive. Il y a aussi un autre rendez-vous qui est pour nous régulier, c'est celui de l'insurgé de Cré, où on se réunit début décembre chaque année, un peu dans cette même idée de ne pas être seul à célébrer tel ou tel événement, mais à le faire avec d'autres, parce qu'on n'aime pas être tout seul.
Quelles sont pour vous les voies à explorer pour cet avenir ?
Je dirais que malheureusement, la première action est de défendre ce qui existe, quand ça existe, et en particulier une loi qui est venue après 1848, puisqu'elle a été la première fois mise en place par la Commune de Paris, qui est la séparation des Églises et de l'État, qui donc... s'est faite ensuite en 1905, et cette loi, elle a été rédigée, pensée par des libres penseurs, puisque Aristide Briand était le rapporteur de la loi de 1905 et libre penseur. Il y avait également Ferdinand Buisson et Jean Jaurès, qui tous deux étaient aussi des libres penseurs tout à fait connus. Donc c'est une des choses à laquelle on est particulièrement attaché. Bon, cette loi a subi évidemment des vicissitudes, en particulier durant la période de Vichy. Certaines d'ailleurs des lois de Vichy sont encore en vigueur, mais ce qu'on a surtout vu, c'est l'apparition, avec la Ve République, l'apparition de la loi de Bray, qui autorise le financement des écoles privées, qui sont à 96% catholiques, et qui a atteint des sommes plus que conséquentes, puisqu'on a fait le décompte de manière assez précise, et on est arrivé à 15 milliards d'euros chaque année, et on n'est pas sûr d'avoir tous les éléments. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important. Alors sinon, l'avenir, c'est bien difficile de... de dire l'avenir, de penser l'avenir... De toute façon, tout le mouvement ouvrier est, il faut bien le constater, dans une position assez défensive, parce que tous les acquis sociaux, tous les acquis démocratiques sont menacés par les gouvernements successifs, pas seulement celui-là. Celui-là est l'un des pires de la période récente, mais il y en a eu d'autres avant.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa.
107.5,
101.7
FM.
La libre pensée, c'est être libre de quoi ?
C'est être libre de ses choix d'une manière générale, être libre de réfléchir, être libre de décider, être libre à la fois de sa conscience et de son corps, c'est-à-dire qu'évidemment, nous sommes aux côtés de celles qui défendent le droit à l'IVG, nous sommes aux côtés de tous ceux et celles qui défendent le droit de mourir dans la dignité, etc. Et on a des contacts avec d'autres organisations sur ces terrains-là, de toute façon.
Et on est avec toutes celles aussi qui veulent s'habiller comme elles l'entendent, celles qui veulent se mettre les seins nus à la piscine, mais aussi celles qui veulent sortir voilées. Parce que le combat laïque, il est souvent dévoyé par les racistes qui te disent qu'on a mis tellement de temps à autoriser les femmes à se découvrir que donc maintenant, il faudrait que ce soit comme ça. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas vraiment compris le concept de liberté. La liberté vestimentaire, elle est totale, elle est pour toutes. Et elle n'est pas, destinée seulement à une longueur de jupe ou à une absence de voile. Donc on est au combat, aux côtés de celles qui veulent s'habiller comme elles l'entendent, qui ne justifient ni agression, ni colibet, ni discrimination, entre autres. Pareil pour les interdits alimentaires. Nous, on revendique de ne pas en avoir. Mais par contre, chacun mange ce qu'il veut. Il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà. C'est quelque chose d'un peu plus... Enfin, c'est délicat parce qu'il y a certains qui se revendiquent du combat laïque et qui, en fait, sous couvert de laïcité, comme je l'ai déjà dit, sont des racistes et s'opposent toujours au même. L'ennemi est souvent dans le viseur, c'est souvent le musulman d'ailleurs, ou enfin, en tout cas le racisé, le bronzé, l'exotique, peu importe un peu lequel, mais l'étranger dans sa globalité, dans son fantasme un peu. Et nous, on est plutôt aux côtés de l'étranger et aux côtés du discriminé pour se pencher sur les raisons réelles de ce qui crée ces discriminations.
On pourrait dire aussi que à ceux qui veulent que la laïcité soit partout, qu'à force, elle n'est plus nulle part. C'est-à-dire que nous on défend la laïcité institutionnelle, c'est-à-dire celle qui s'applique dans les institutions de l'État, c'est-à-dire la laïcité qui fait interdiction à un représentant de l'État d'affirmer une conviction religieuse dans l'exercice de ses fonctions. À titre individuel, il fait bien ce qu'il veut. Et d'ailleurs, on assiste à des manquements répétés de ce principe-là par les plus hautes autorités de l'État, puisque Monsieur Macron va rencontrer le pape à Marseille. Il a même été jusqu'à dire qu'il voulait réparer le lien entre l'Église et l'État, c'est-à-dire, en clair, détruire la loi de 1905. Bon, une chose est certaine, c'est qu'il nous trouvera en travers de son chemin.
Comme ça, lors de conversations avec d'autres personnes, on a quand même ce constat que ce gouvernement démolit tout le lien social qui existe encore au niveau des services publics, au niveau de la fraternité, de la solidarité. Est-ce que pour vous, il y a une matière à dénoncer? Donc, vous êtes là aussi pour défendre une certaine indépendance?
Par exemple, le gouvernement nous a fait tout un flanc du séparatisme. Comme je le disais précédemment, il s'agit toujours des mêmes. Le séparatisme serait une poignée de musulmans extrémistes qui feraient séparatisme. Or, le vrai séparatisme en France aujourd'hui, il a lieu avec la religion catholique et notamment l'Église apostolique romaine. Et ceux qui font les accros à la loi 1905, ce sont en fait toujours les mêmes qui le font avec leurs écharpes tricolores, qui mettent des crèches dans les mairies, l'hôtel du département, l'hôtel de la région, ce genre de choses, et qui voudraient que les musulmans se cachent littéralement, eux, pour exercer leur religion. Voilà, c'est toujours des choses à double niveau, c'est un double jeu, un jeu de langage, de parler par exemple volontairement des racines chrétiennes de la France pour pouvoir nier tout ce qu'est la France en fait globalement et tout ce qu'elle est la France, et c'est trop pluriel pour pouvoir définir et se cacher derrière les racines chrétiennes de la France, elles sont beaucoup trop multiples. Voilà, nous ce qu'on dénonce c'est que leur loi contre le séparatisme, elle est le séparatisme, elle nous met dans des cases, elle nous ghettoise, elle crée complètement de toutes pièces d'ailleurs beaucoup de retranchements derrière la religion, et je pense qu'il y a pas mal de réponses de gens agressés continuellement sur leur conscience, leur liberté de conscience, qui vont notamment réagir agressivement. Je pense aux adolescents qu'on embête tout le temps. Les petits musulmans, les musulmans dans l'espace public sont embêtés sans arrêt. Et la réponse d'un ado ou d'un enfant à ça, et ça paraît plutôt logique, c'est d'être dans une revendication à l'extrême. Et en fait, à force d'agresser toujours les mêmes, ils créent de toutes pièces des camps, et alors qu'il n'est pas censé y en avoir. La plupart des gens en France aujourd'hui n'ont pas de religion. On oublie de le dire, on nous bassine avec le séparatisme et le burkini et les racines chrétiennes de la France et ceci, cela. Et en fait, la plupart des gens en France ne croient pas en Dieu, ne pratiquent pas de religion, ne se revendiquent d'aucune église. Faut pas oublier ça. Donc voilà, ils instrumentalisent des espèces de combats qui n'ont pas lieu, parce que dans notre quotidien, les Français, on n'est pas sans arrêt en train de se crêper le chignon entre gens d'obédience différentes. Ça n'a pas lieu. C'est eux qui mettent de l'huile sur le feu sans arrêt là-dessus, sans arrêt.
À propos de l'islam, il y a aussi une chose qui a été dite par certains avec qui on n'est pas du tout d'accord, c'est que à l'époque de 1905, la religion musulmane n'existait pas en France. ce qui est une erreur historique monumentale, puisque à cette époque-là, l'Algérie était française et qu'il y avait des millions de musulmans et français, de fait, à cette époque-là. Et en plus, la question s'est réellement posée en Algérie. Dans la loi de 1905, il était prévu qu'il y aurait une application progressive de la loi de 1905 en Algérie, et ça s'est jamais fait, malgré beaucoup de mouvements progressistes algériens et souhaité que toutes les lois françaises s'appliquent, les lois sociales et la loi de 1905. Et en fait, l'État français de l'époque, l'État colonialiste, a préféré le statu quo et a préféré se servir des autorités religieuses qui contrôlaient pour maintenir l'ordre.
Aujourd'hui, on peut constater aussi une montée de l'extrême droite en France, un peu partout en Europe également, et même sur la planète. Quel est votre sentiment sur cette évolution ?
On pourrait dire de façon peut-être un peu provocatrice, mais un communiqué récent de la Libre Pensée se terminait par « l'extrême droite est déjà au pouvoir, est déjà au gouvernement ». Parce que c'est vrai que... Pour ce qui est de la situation française, hein, on peut parler de l'international, mais en France en tout cas, l'épouvantail Front National puis Rassemblement National a servi, a beaucoup servi, a servi d'abord à Mitterrand, a servi à d'autres, et Macron s'étant présenté comme un rempart, quand on voit le vote de la loi immigration, on assiste de façon très claire à... une loi qu'on peut appeler Macron, Ciotti, Le Pen, quoi. Donc il n'y a pas besoin que le RN soit élu pour que ses idées soient mises en œuvre.
Mais quelle est pour vous la possibilité de rebondir face à ça ?
Je ne sais pas ce qu'on peut dire. La libre pensée n'est pas un parti, donc on n'a pas... comment ? On ne peut pas proposer de solution ni de programme. Ce n'est pas notre ambition et ce n'est pas notre rôle. Alors bien sûr, on peut débattre, transmettre des idées, apporter des connaissances, qu'elles soient historiques ou autres, des analyses, etc. Ce qui veut dire d'une certaine manière qu'on participe à la vie politique du pays, mais on n'a pas le rôle d'un parti.
Et ce qu'on pourrait dire en fait, mais ça c'est bon pour la libre pensée Ardèche Drôme, c'est bon pour la libre pensée au national, c'est bon pour les autres organisations en fait globalement qui se retrouvent sur certains combats, c'est que il faut quand on pense qu'on est quand on est sensible aux choses que nous on va défendre, par exemple, je pense qu'il faut se rapprocher. Faut pas avoir peur sans arrêt de dire je suis pas encartée, moi personne m'achète, moi. Je crois que c'est une erreur. Je crois qu'on a au fur et à mesure comme ça sali les partis politiques, sali les syndicats, sali l'associatif pour dire que c'était un peu un embrigadement. Ben, je crois que non. Notre salut, il est dans l'organisation. Et il est dans l'organisation multiple. C'est-à-dire que il y a pas une bonne organisation qui va nous sauver. Il y a une multitude d'organisations qui vont avoir un accord sur certaines choses qu'on trouve importantes et fondamentales et qui vont faire avancer les choses dans le bon sens. Ça peut avoir lieu. La preuve, voilà, les partis savent bien s'entendre quand il faut avancer sur un front commun, sur une idée commune. Nous, on s'est rassemblés à l'intérieur de notre association, on s'est rassemblés des gens qui ne militent pas ou militent à divers partis politiques et dans d'autres syndicats et dans des... Enfin voilà, quand on a des choses communes, donc je crois qu'il faut se rapprocher des organisations qui nous représentent, avec qui on a un intérêt commun, qui nous mettent la puce à l'oreille, qui attisent notre curiosité, qui nous ont appris des choses. Et il faut, je crois, se rendre dans les réunions, il faut discuter, débattre, lire, poser des questions, ne pas être d'accord, continuer à faire ça. Et puis, du coup, puisque l'objet de l'interview, c'était de parler du mécréant, et ben, il faut, voilà, pourquoi pas soutenir les associations en s'abonnant à leurs publications, en allant à leurs conférences. Et c'est ça, en fait, on se nourrit mutuellement, on nourrit les combats des uns et des autres dans une mouvance où on a des choses en commun à défendre. puisque jusqu'à preuve du contraire, quand on parle du mouvement ouvrier, on fait partie du même monde, on a les mêmes intérêts. Qui combattent les mêmes intérêts contraires, en fait. Le patronat a des intérêts contraires aux nôtres. Voilà, bon, ça fait partie des choses un petit peu basiques de la lutte des classes, mais voilà, il ne faut pas oublier à quel monde on appartient et surtout de rester soudé, de s'en rapprocher et de continuer à discuter et à faire grandir un mouvement. Et surtout, je m'adresse du coup aux personnes jeunes. Je pense que les gens ont beaucoup à s'amener et à s'apporter. Les gens qui ont une expérience du militantisme et des connaissances historiques solides voilà, de leur mouvement et du reste, et à conjuguer avec la fraîcheur, la vitalité, les connaissances aussi d'un nouveau monde qui arrive et des fois qui manque aux vieux militants. Et tout ça a besoin de se frictionner, de s'apprendre des choses. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans une organisation, même de payer sa cotisation et de se dire, voilà, moi j'ai ma carte à telle chose. Ce n'est pas une maladie. Et puis, une adhésion, ça se reprend tous les ans. Donc si on n'est plus d'accord, on arrête son adhésion. C'est pas, ça va aller, en fait. Hein. Mais je crois que c'est le seul moyen de faire avancer le Schmilblick.
Le mécréant, comment y accéder? Et il y a un site internet aussi de la Libre Pensée, j'imagine, qui fédère peut-être tout ce qui existe au niveau national.
Au niveau national, il y a un site qui est celui de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, donc qui est le fnlp.fr. Enfin, il suffit de taper Libre Pensée et c'est là qu'on atterrit, qui est assez complet, assez riche. L'IRELP, c'est-à-dire l'Institut de Recherche et d'Études de la Libre Pensée, a également un site. Il existe une newsletter de la FNLP et une newsletter de l'IRELP auquel on peut tout à fait s'abonner. Pour ce qui nous concerne dans l'Ardèche et dans la Drôme, on n'a pas de site, mais on a une page Facebook et on a une adresse mail qui est le contact le plus simple, hein, finalement, qui est librepensée07.26@gmail.com.
Et aussi pour la fédération, donc pour s'abonner aux mécréants, c'est assez facile. Certains de nos auditeurs vont reconnaître, hein, c'est facile, il suffit de s'adresser à M. Daniel Rassa, bien connu des auditeurs parce qu'il est partout, Daniel Rassa, et il est avec nous aussi. Du coup, il suffit de joindre un chèque de 12 euros, c'est toujours le tarif, 12 euros pour la version papier, c'est ça. Et pour la version numérique, 8 euros, à l'ordre de la Libre Pensée 0726, avec son nom, son prénom, son adresse, son courriel, hein, évidemment, toutes les informations de base, et l'adresser à Daniel Rassa, donc 6 rue des Cordeliers, à Die. Vous pouvez aussi le croiser dans la rue pour lui demander ce qu'il en est, c'est assez facile. Mais voilà, et on peut s'abonner de partout en France, il n'y a pas besoin d'être à Die, pour recevoir donc 4 mécréants par an. Et puis, si vous êtes chanceux, vous avez reçu notre best-of de Noël aussi. Voilà, c'est un petit moyen de donner envie aux gens de s'abonner au Mécréant.
Oui, j'ajouterais aussi qu'on a été amené à faire un numéro spécial pour le 8 mars qui utilise des articles qui ont été publiés dans le Mécréant depuis, je crois, 2018 et qui ont trait au combat féministe ou qui abordent, par exemple, il y a l'article dont j'ai parlé déjà sur Juliette Roche, qui était peintre et écrivaine, et puis enfin, voilà, toutes sortes d'articles qui ont à voir avec les droits et les combats des femmes.
Il y a de temps à autre, en Drôme ou Ardèche, des réunions, des rencontres organisées de temps en temps quand même pour vous mettre au diapason notamment.
Oui, alors on a un fonctionnement démocratique. Alors il y a les institutions classiques, hein, si tu veux. On a une commission administrative fédérale, une sorte de conseil d'administration, en fait, hein, c'est simplement ça, qui se réunit. On a aussi des AG, on a des réunions de bureau. Des fois, on fait des choses en vrai, des fois, on fait des choses en visio. Mais enfin, voilà, on a un fonctionnement classique d'association. On se réunit et puis on se réunit aussi pour préparer le congrès national. Ça, c'est les choses un peu administratives. Et puis, on se réunit aussi régulièrement, comme je disais tout à l'heure, autour de conférences, donc soit données par des membres de la Libre Pensée au national, parce qu'on a tout un catalogue de membres qui proposent des conférences qui sont régulièrement nouvelles, comme ça, sur des sujets soit intemporels ou soit d'actualité. Des rassemblements, comme disait Jean, autour du pacifisme, autour de certains monuments, le mouvement pacifiste à Joyeuse en est un. Le repas contre les interdits, alors ça on aime bien, ça c'est vrai que c'est un peu notre... on se réunit, alors je sais pas combien on est, 20, 30, 30, 40, voilà. On fait pour le Vendredi Saint, nous on fait un vendredi gras, un repas contre les interdits où on mange gras et on parle et on chante et on peut boire un peu de vin à l'occasion si le cœur nous en dit. Voilà, le but étant de revendiquer la liberté de consommer ce qui nous fait plaisir contre les interdits religieux. Voilà, les interdits religieux et pas que d'ailleurs, les interdits en général, parce qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus multiples que seulement religieux. Donc on a un fonctionnement et ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut venir à nos rassemblements, évidemment. D'ailleurs, ils sont grandement invités à le faire. Tout le monde peut venir aux conférences et ils sont grandement invités à le faire. Et après, on a les rendez-vous plus administratifs où effectivement, on est entre nous. Cela dit, tout adhérent peut être amené à rentrer dans nos instances s'il est élu. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci.
Il nous arrive aussi fréquemment d'être invité à diverses occasions à tenir un stand de la Libre Pensée parce que on a aussi une production importante de bouquins qui sont soit édités par la Libre Pensée, soit édités par l'IREP, soit édités par il y a les éditions libertaires également. Enfin bref, on a toute une librairie, disons. Et ces stands, on les tient à des occasions très diverses. Hein. On a été invité à la fête de la CGT, au 1er mai de la CNT. On a été invité par Tournant en commun, on l'est encore cette année. Bon, on participe également au Forum des associations. On est invité aussi depuis plusieurs années à l'Université d'été de la France Insoumise, puisqu'elle se tient à deux pas de Valence. C'est toujours l'occasion d'échanges très riches. Et on a pu même constater, en particulier à cette occasion dont je parlais, c'est-à-dire les amphis de la France Insoumise, beaucoup de contacts avec de très jeunes gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'on peut apporter. Et puis le débattre de ce qu'est la laïcité, de tout un tas de questions.
Et c'est notamment à ces occasions, quand on se rassemble et qu'on se rassemble, ça fait du bien de voir qu'on est nombreux quand même, de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas une poignée, qu'on partage avec plein d'autres organisations, plein d'autres gens, plein de beaux principes, pas de repli, pas de sectarisme, justement d'ouverture, d'échange. Ça fait du bien de voir qu'on est nombreux,
oui. Oui, sur cette question d'ailleurs du sectarisme, pour prolonger ce que disait Émilie, on est dans une période où les gens se parlent. Enfin, c'est un truc qu'on constate à travers des réunions pour des causes diverses et où en fait des gens qui étaient un peu retranchés dans leur boutique ont cessé ou sont en train de cesser d'avoir cette pratique. Et du coup, on peut avoir des combats communs, et tant pis si on n'est pas d'accord sur tout, c'est pas important. Mais si on est d'accord sur le combat qu'on mène, c'est déjà bien.
Oui, il s'agira seulement de faire la révolution, après on verra, c'est pas grave.
Émilie Moncillon et Jean Debrenne, je vous remercie tous deux de vous être rendus disponibles pour RDIWA pour nous parler un peu de la libre pensée et du mécréant. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Au revoir et merci de nous avoir écoutés.
Oui, au revoir et puis merci aux Radios Libres d'exister parce qu'elles sont aussi un outil bien utile et indispensable à la liberté de conscience et à la libre pensée.
Try it again.